un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est une histoire qui s'inscrit dans la tradition bien connue, hélas, des policiers corrompus, qu'on appelle des ripoux, associés à la technologie la plus moderne, connue sous le nom de Dark Web. On se souviendra néanmoins, en écoutant les aventures peu édifiantes de ce policier repenti, que le Dark Web prête le flanc à de nombreux fantasmes. Car c'est d'abord tout un ensemble de réseaux anonymisés qui permet à de nombreux militants, activistes, journalistes de contourner la censure de leur pays pour accéder à de l'information. C'est même le but de la majorité des utilisateurs du Darknet. Certains grands journaux, comme le New York Times par exemple, depuis 2017, ont un site sur le Dark Web pour être consultés librement. Le Darknet ou Dark Web, ça veut donc dire un peu tout, mais à la base, ça fonctionne avec un protocole très particulier qui s'appelle Tor. Et Tor, c'est les initiales de The Onion Router, car il y a plusieurs couches entre l'utilisateur et le réseau qui décentralise l'accès. Bref, c'est une porte d'accès vers des sites non censurés. Précision tech étant posée, on écoute tout de suite le récit de ce policier perdu donc dans le dark web par Clément Baudet.
Je m'appelle Christophe Boutry, j'ai 37 ans et j'habite en Normandie. J'ai grandi dans le Calvados. Mon père était gendarme, donc j'ai grandi en caserne. Mon père, à l'époque, pensait que pendant mes études, j'étais pas forcément quelqu'un qui avait la carrure pour porter l'uniforme. Sans lui dire, j'ai passé le concours. Et c'est comme ça que ma carrière en gendarmerie a commencé. J'ai pris goût, je me suis laissé porter par l'aspect militaire, l'esprit de corps. Et puis, j'ai quitté la gendarmerie parce que j'ai eu quelques frictions avec mon commandant de brigade à l'époque qui avait du mal avec le fait que je sois gay. Donc ça m'a conforté dans la décision de passer dans la maison d'en face, dans la police, et j'ai exercé dans un service d'enquête dans le 13e arrondissement. Et puis voilà, je pouvais traiter entre 12 et 15 gardes à vue par jour. Et c'est ça qui m'a vraiment donné envie, après, de faire de l'enquête, de l'enquête de PJ, et puis évoluer. Donc à l'automne 2016, je postule pour rentrer au service judiciaire de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure en tant qu'enquêteur. On est en 2016, la France est meurtrie par les attentats du 13 novembre, et puis même antérieurement par les attentats de Charlie Hebdo, et il y a une montée en puissance des services de renseignement et des services judiciaires pour lutter contre le terrorisme et prévenir tous les actes terroristes qui pourraient se produire. Il y a énormément de gens à surveiller, il y a énormément de travail, et la DGSI recrute beaucoup, et donc moi j'ai été affecté à la lutte au contre-terrorisme islamiste radical. Et j'étais extrêmement fier, tout en ayant d'un seul coup la culture du secret, c'est-à-dire je ne pouvais en parler à personne. Je ne pouvais pas le dire, sauf à mon conjoint. Pour ma famille, c'était très obscur. Donc il y a un peu cette excitation de découvrir l'envers du décor. Ce qui m'a beaucoup impressionné, ce sont les moyens qui sont mis à disposition. Dans le cadre d'une enquête, j'avais accès à l'intégralité des fichiers du renseignement qui permettent d'identifier un véhicule, une personne, un numéro de téléphone, une écoute téléphonique. Et j'avais également à disposition les moyens humains pour effectuer des surveillances 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en temps réel. Et chaque journée avait son lot de surprises. On savait pas du tout ce qui allait se passer. Vous pouvez avoir des journées extrêmement simples à faire des écoutes téléphoniques, du travail d'investigation très basique. Et puis d'un seul coup, on vous appelle et puis vous partez à l'autre bout de la France pour surveiller, enquêter et interpeller potentiellement quelqu'un qui va passer à l'acte. On a empêché des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. On le garde au fond de nous. Et on sait que la reconnaissance, elle n'est pas publique. La reconnaissance, c'est la reconnaissance du travail bien fait et d'avoir sauvé des vies. Je me sentais investi d'une mission. Voilà. À ce moment-là, dans ma vie perso, c'est très compliqué sur le plan financier. J'ai un plan de surendettement qui a été validé par la Banque de France, donc je commence à rembourser des grosses mensualités pour éponger des dettes qui sont liées à une ancienne relation, à qui ça s'est mal terminé. Et j'avais environ 40 000 euros de dettes qui me prenaient l'essentiel de mon salaire, en fait. Je vivais sur Paris, donc les loyers sont extrêmement élevés, la vie est extrêmement chère. Et ce qu'il faut savoir, c'est que DGSI ou pas DGSI, j'étais payé 2000 euros en tant que fonctionnaire de police. Mon conjoint actuel travaillait à plein temps, mais il était étudiant en droit, il remboursait également un crédit étudiant. En fait, tous les deux, on avait beaucoup de mal finalement à boucler la fin de mois. En fait, il restait quasiment plus rien. Et la situation était d'autant plus dure à vivre puisque je n'en avais parlé à personne. Parce que j'avais honte, déjà. Que ce soit au niveau de mon père, de mes frères et sœurs, et d'autres amis, personne n'était au courant de ces problèmes financiers. J'avais honte et c'était compliqué parce que professionnellement, je réussissais. D'un côté, j'étais celui qui commençait à faire une belle carrière dans la police, à gravir les échelons. Voilà, tout le monde était très fier de mon parcours. J'étais heureux sur le plan sentimental avec mon conjoint. Et puis, à côté de ça, c'était la catastrophe sur le plan financier. À ce moment-là, en février 2017, je travaille sur une enquête qui inclut plusieurs personnes en région parisienne qui sont soupçonnées de préparer un attentat. Et donc, on a identifié les membres d'une famille qui sont connus pour un parcours de radicalisation pour certains. Et donc, je travaille sur un objectif qui est un des frères de la famille qui se trouve en détention à Nanterre, à ce moment-là, qui, depuis sa cellule, avec un téléphone portable, eh bien, on se rend compte qu'en fait, il commet des arnaques au travers de Le Bon Coin et à l'appui du Darknet. Donc, ça n'intéresse pas l'enquête, ça n'intéresse pas trop mes supérieurs, mais je décide quand même de creuser, avec leur autorisation, je creuse un peu ce volet-là pour essayer de déterminer un peu le préjudice et les victimes, et puis peut-être pour le transmettre à un autre service spécialisé dans la matière pour voir ce qu'ils peuvent en faire. Et c'est comme ça que je me retrouve sur le dark web. Donc le dark web, c'est la face cachée d'Internet. C'est vraiment le côté qui n'est pas visible par les moteurs de recherche, sur lequel il y a des forums, et ce qu'on appelle des markets, un peu comme Amazon, hein, mais sur lesquels sont vendus des informations, des produits illicites. Donc je m'inscris, je crée un pseudonyme. À ce moment-là, j'utilise le pseudonyme de Baudelaire 93. C'est un peu un pied de nez parce que ça parle très mal, c'est très mal orthographié. Moi, je suis un peu de la vieille école. Voilà, j'écris tous mes SMS sans abréviation. Donc oui, c'est un peu un pied de nez, donc Baudelaire. Et ce que je comprends en y allant à ce moment-là, c'est oui, c'est un business à ciel ouvert. Je suis effaré de voir non seulement tout ce qui s'y vend, avec quelle facilité. Moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment des vitrines de commerce, comme vous pourriez le voir sur un site standard, où on vendait voilà, des faux permis, des fausses cartes d'identité, beaucoup de faux documents, de cartes grises, de fausses monnaies. Et puis après, bon, tout le panel des stupes. Hein, je veux dire que ce soit de la MDMA, de la cocaïne, du shit. Il y avait vraiment de tout. Des adresses mail, des mots de passe pour accéder à différents comptes, par exemple que ce soit Uber Eats, Amazon, des lots de 50 comptes Netflix, enfin il y avait vraiment de tout. Et je rentre en contact avec différentes personnes qui vendent des cartes grises pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc je fais croire que je suis intéressé en fait, je fais croire que j'ai envie d'acquérir une carte grise, une fausse carte grise. Et je rentre en contact du coup avec un dénommé Jojo de la Vega, qui lui est un faussaire reconnu, parce que voilà, il fait des fausses cartes grises, des faux permis de conduire. Donc je me dis, si j'ai une question à poser dans la matière, c'est vers lui que je vais. Donc je rentre en contact avec lui à propos des cartes grises, je lui dis que je suis intéressé pour en acheter une, et je lui dis, mais qu'est-ce que je pourrais en faire? Et là, il m'explique en détail que je peux replaquer des véhicules volés, que je peux arnaquer différentes personnes, par exemple, pour se faire payer une avance sur la vente d'un véhicule à distance et ne jamais le livrer, par exemple. Voilà. Et je lui demande des détails un peu sur comment mettre en place les arnaques sur Le Bon Coin et me donne vraiment tous les détails. Moi, je suis très content parce que derrière, je rédige un beau procès-verbal qui résume très très bien toutes les arnaques que j'ai constatées dans mon enquête et tout va bien. C'est censé vraiment s'arrêter là, à ce moment-là. Sauf que Jojo de la Vega, il voit que je m'exprime pas comme les autres. Et puis, il en vient à me poser la question, tiens, dis-moi, est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait m'obtenir des informations qui viendraient de vrais permis de conduire ou de vraies cartes grises pour pouvoir faire les miennes? Je dis comme ça, bah non, je vois pas. Il me fait, non, mais je sais pas, parce que t'as l'air quand même de bien t'exprimer. Tu me poses beaucoup de questions. Soit t'es flic, soit je sais pas vraiment ce que tu fais là. J'ai dit comme ça, mais écoute, non, je connais personne. Il me fait, bon, bah écoute, si jamais tu connais, moi je cherche activement, ça paye bien. Et puis, les jours passent, je réfléchis et je me dis, oui, pourquoi pas. Je peux le faire parce que j'ai accès à tous les fichiers, au titre d'identité. Je peux accéder au permis de conduire, au fichier des voyages, carte grise, et également à la plateforme des écoutes téléphoniques pour identifier un numéro de téléphone. C'est très très vaste le champ des possibles. Et je suis dans la merde financièrement. On n'arrive pas à boucler les fins de mois. Je suis sous-payé. Je ne devrais pas le faire. Moralement, ce n'est pas acceptable. Mais j'arrive à me convaincre que c'est la chose à faire pour réussir à redresser un petit peu la barre. Vu la masse de recherches que je fais quotidiennement dans ces fichiers, ça se verra pas. Donc je reviens vers lui, quelques jours plus tard. Combien tu me proposes ? Il dit, bah, par exemple, pour les informations issues d'une carte grise, je vais te proposer 100 euros. Je dis, bon, d'accord. Et à partir de ce moment-là, on fait affaire. Au début, il me demande des informations qui proviennent du fichier des cartes grises. Et il me demande également des informations issues des fichiers des permis de conduire. Et alors là, c'est pour faire des faux permis pour des individus qui lui demandent. Lui, il vend ça entre 150 et 300 euros sur le dark web. Les cartes grises, ça monte à 500 euros. Et moi, on négocie. C'est-à-dire qu'il me file entre 50 et 100 euros par information. Ça dépend du nombre qu'il me demande. On est sur moins d'une dizaine par mois. Alors, personne n'est au courant. Même pas mon conjoint. Personne ne le sait. Le soir, je passe du temps sur le dark web. Au contact de Jojo de la Vega, on discute, il me transmet les informations quand il y en a. Et le lendemain, je les fais au travail. Ça me prend vraiment quelques minutes. C'est extrêmement rapide. Moi, au travail, sur mon poste, donc j'ai plusieurs ordinateurs, mais le poste qui est dédié ou sur lequel j'ai accès aux fichiers, il est tout le temps ouvert. C'est-à-dire que très régulièrement, on est là à taper une identité, une plaque, un numéro de téléphone. On le fait tout le temps. Et puis, mes écrans sont tournés vers un mur. Donc, on voit pas vraiment ce que je fais. Alors, à ce moment-là, ce que ça me rapporte, c'est environ 300 à 400 euros par mois en crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'on est sur du Bitcoin et c'est à moi de convertir après ces crypto-monnaies en euros. Je passe par des plateformes d'échange. Donc, il existe beaucoup de plateformes où vous pouvez avoir une carte bleue créditée en crypto-monnaie, en Bitcoin, et vous pouvez retirer de l'argent au distributeur avec. Bon, c'est très simple. Le quotidien est un petit peu plus facile. Bon, c'est pas mirobolant, mais déjà, je me prends un peu moins la tête sur les finances, sachant qu'à ce moment-là, c'est moi qui m'occupe vraiment des finances à la maison, mon conjoint s'en occupe pas. Donc pour lui, tout roule. Bah, clairement, j'y prends goût. J'ai pas l'impression de faire de mal. L'argent appelle l'argent, on a envie d'en faire un peu plus. Et je me dis, bah, oui, si j'en faisais plus, je pourrais rembourser mon plan de surendettement beaucoup plus vite. Et pour moi, c'était vraiment la limite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est devenu vraiment mon objectif. Et Jojo de la Vega, au fur et à mesure des conversations, il me dit, mais qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre ? Il va rapidement me demander d'identifier l'utilisateur d'un numéro de téléphone. Donc là, je lui dis, c'est un peu plus cher. On va être sur 200 euros. Et deux, trois jours après, il revient, il me dit, bah écoute, j'ai un client qui est prêt à payer, ok, pas de souci. Tiens, voici tel numéro de téléphone, je voudrais savoir à qui ça appartient. Et là, on est vraiment dans le cœur de l'information. C'est la plateforme nationale des interceptions judiciaires, la PNIJ. C'est l'outil qui nous permet d'identifier des numéros de téléphone, d'obtenir ce qu'on appelle des FADET. Donc les FADET, c'est les factures détaillées téléphoniques de quelqu'un avec les numéros appelés, les durées, les dates, et puis les bornes relais téléphoniques qui sont activées, qui permettent de savoir dans quel rayon se trouvait une personne. Enfin vraiment, toutes les communications d'un téléphone, bon, sauf évidemment quand elles sont cryptées. Pour accéder à cette plateforme, on doit justifier légalement le faire. C'est-à-dire qu'on a un numéro de procédure, on désigne un cadre d'enquête, un magistrat qui est responsable. Mais en utilisant cette plateforme, je me suis rapidement aperçu qu'il n'y avait pas de mécanisme de contrôle. Et puis je pouvais, moi, à ma guise, créer un dossier, mettre des fausses informations, être le seul utilisateur de ce dossier, et puis faire ce que je voulais dedans, sans que quelqu'un le voie. Donc c'est comme ça qu'en fait, par la suite, j'ai utilisé la plateforme pour identifier des numéros de téléphone, obtenir des FADET, par exemple. Et là, effectivement, oui, ça s'accélère. Ça va beaucoup plus vite. Il va m'en demander beaucoup plus. maintenant, on est en contact vraiment tous les jours. Et là, on est, oui, on est sur 500, 800 euros par semaine, à peu près. Mais je stocke, je l'utilise pas. Je me fais un pécule, une cagnotte. Toujours avec cette idée, finalement, de rembourser mon plan de surendettement par anticipation. Mais je fais attention, et mon conjoint, quand même, commence à poser des questions. Parce qu'il me dit, t'as l'air en positif, tu m'as invité au resto, t'as changé la parure de drap. Bon, qu'est-ce qui se passe? Et puis, petit à petit, il fait le lien avec le fait que je passe beaucoup de temps le soir sur l'ordinateur. Donc je lui explique que je suis en opération d'infiltration sur le dark web. J'ai fait la connaissance d'un détective privé qui me paye pour vendre des informations. Voilà, je lui donne des informations issues des fichiers police. Et là, il me dit, non, je veux rien savoir. Je veux pas en savoir plus. Tu es en train de risquer ta carrière, de tout foutre en l'air pour de l'argent, parce que tu penses qu'on est suffisamment dans la merde pour que tu aies besoin de faire ça. Et alors que ce petit business était en pleine expansion, ça s'arrête d'un seul coup en décembre 2017. Jojo de la Vega ne répond plus. Il est plus sur le forum, il n'existe plus, plus de traces de Jojo de la Vega.
France Culture, les pieds sur terre.
Donc, Jojo de la Vega disparaît. Je reste quelques jours sans activité. Voilà, il me transmet plus d'informations. J'ai plus de rentrée d'argent. Et sur un coup de tête, je décide de changer de pseudonyme. Je prends le pseudonyme d'Horus sur le dark web et je me recrée une nouvelle identité numérique. Je choisis Horus parce qu'il y a un côté, donc il y a une symbolique par rapport à la divinité égyptienne, l'œil qui voit tout, et c'est vrai que dans ce que je fais, le fait d'avoir accès à toutes les informations et de pouvoir les livrer, voilà, il y a un petit côté omniscient, et puis c'est du marketing, on est sur un market, faut attirer les gens. Alors la version Horus, bien orthographiée avec un O, était déjà prise par un autre membre du forum, donc ça s'écrit H-A-U-R-U-S. Bon, je suis resté sur cette idée, sauf que j'ai fait une variante. Je crée cette nouvelle identité Horus et je crée un nouveau service sur le dark web en détaillant exactement tout ce que je peux faire. Là, vraiment, j'ai une vitrine avec pignon sur Horus sur le dark web et les gens peuvent me contacter directement. Et tout de suite, ça prend. Donc, les clients affluent, ça me prend beaucoup plus de temps. Donc, j'en fais beaucoup plus le soir sur le dark web. Je me couche beaucoup plus tard. Je suis de plus en plus fatigué. Et au travail, je viens aussi parfois avec mon ordinateur perso. Donc, ce qui est pas non plus incongru, mais je continue mes activités aussi la journée. Il faut faire le tri. Il faut récupérer les paiements. Il faut livrer les informations. Enfin, c'est vraiment... ça devient vraiment une petite entreprise et je le gère comme tel. J'ai des avis, je commence à être reconnu sur le dark web. Ça devient un double. Ma mauvaise légende. Là, j'ai tellement mis les mains dedans que je ne me rends même plus compte que je suis en dérive totale. Donc je dormais pas beaucoup, il y avait les dossiers parfois intenses à gérer, on partait aussi en déplacement, j'étais mentalement torturé, physiquement j'en pouvais plus, et je devenais complètement paranoïaque avec mes collègues. C'est-à-dire, est-ce qu'ils se doutent pas de quelque chose? Est-ce qu'ils vont pas voir? Et j'arrivais à me convaincre que je pouvais m'arrêter du jour au lendemain. Puis l'argent est là, donc non seulement j'en accumule, mais je commence à en dépenser. Donc je vais changer, je vais m'acheter le dernier iPhone, je vais m'acheter une moto, on va se faire un bon restaurant, je vais changer un peu le mobilier à la maison. Voilà, le train de vie change. Et en septembre 2018, je reviens de 2 semaines de vacances avec mon conjoint. On était parti en Italie. J'arrive au travail, je retrouve mes collègues. Et puis on partage un café, je raconte mes vacances, avec la chef on fait un peu le point sur les dossiers en cours. À un moment donné, ma collègue me demande de me rendre dans le bureau du commissaire, du chef de service, enfin un des chefs de service, pour faire le point sur un dossier en cours. Bon, je prends mon bloc-notes, mon café, j'y vais directement. Pendant ce temps-là, j'avais Joël, mon conjoint, qui essayait de m'appeler sur mon téléphone. Et j'ai pas pris le temps de décrocher. Je me rends dans le bureau du commissaire et je le trouve au téléphone dans son bureau et il me fait signe de m'asseoir. Donc je m'assois, je croise les jambes avec mon bloc, mon café. Et d'un seul coup, je l'entends dire « Il est là ». Et il raccroche. Et il me regarde. Et d'un seul coup, la porte s'ouvre. Deux collègues rentrent. Donc, c'est des membres de l'inspection générale de la sécurité intérieure. Donc, un service d'enquête habilité à enquêter sur les fonctionnaires de police de la DGSI qui rentrent. Et il y a notamment un de ses collègues que je connais. Je me lève pour les saluer et il me prend le bras. Et il me passe la menotte. Et là, je regarde, je dis, non, Eric, qu'est-ce que tu fais? C'est pas drôle. Je dis, attends, il y a le patron. Et l'autre collègue qui est avec lui me regarde et il me dit, mais Horus, tu connais? Et là, je comprends immédiatement. Je sais qu'ils n'ont pas monté cette opération pour rien. Vraiment, j'ai le sol qui se dérobe sous mes pieds. J'ai les mois accumulés d'un seul coup qui me reviennent en tête. Et vraiment, je me ferme. À ce moment-là, je me ferme. Et puis à ce moment-là, il m'annonce qu'on va perquisitionner mon bureau. Et là, je comprends également que mon conjoint a été interpellé à notre domicile. Il me pose pas de questions. Il me pose pas de questions parce que, en réalité, ils ont créé toute une cellule de crise. Ça fait 3 mois qu'ils enquêtent sur moi. Et en fait, j'ai appris qu'ils avaient monté toute une enquête au sein de la DGSI et avec d'autres services en collaboration qui ont réussi à m'identifier au travers des fichiers de la police par une recherche que j'avais pu faire. C'est foutu, je suis cuit. J'avais l'image du flic modèle. Mes amis, mes collègues, le sentiment de trahison qui va les habiter. Mon conjoint, qu'est-ce qui va se passer? Quand je les ai vus, qu'ils savaient ce qui s'était passé là. Mais je veux dire, la honte. Et c'est pendant la garde à vue que je vais prendre le parti de parler, de tout dire. Et en fait, ça me quitte comme un poids. Comme un poids que j'ai accumulé pendant des mois. Bah, c'est con, mais je me sentais soulagé. Soulagé que ça soit terminé. Soulagé de plus avoir à mentir. Et puis tout de suite, je suis parti en détention à Fleury-Mérogis. Je me retrouve dans un quartier spécifique, dans un groupe où il y avait un ancien douanier, un avocat, un colonel de la DGSE. Voilà, des profils un peu de tous les horizons. Il y avait même des surveillants, du coup, détenus, qui étaient impliqués dans des trafics de stupéfiants qui étaient dans ce quartier spécifique. Donc on est vraiment on évolue en vase clos. Voilà. L'infraction principale qui m'était reprochée, c'était détournement de la finalité d'un fichier informatique nominatif, donc d'avoir détourné les fichiers de la police nationale. Et après, il y avait toute une kyrielle d'infractions qui sont liées entre elles. C'est usage de faux, complicité de faux, recel, vol. Donc en gros, il y avait une dizaine de faits qui m'étaient reprochés. Donc j'ai risqué jusqu'à un maximum 10 ans de prison. Puis surtout, bah, l'impact que ça a eu sur ma famille, sur mes proches. D'un seul coup, j'étais le ripou, j'étais le paria, j'étais le traître. C'est le mot qui revenait le plus souvent. Donc j'ai plus de nouvelles de personne. Et mon conjoint, lui, de son côté, a fait 6 mois de détention provisoire. Lui, ce qu'on lui reprochait, c'était le recel, finalement. Le recel des biens provenant d'un délit, c'est-à-dire le fait d'avoir utilisé l'argent qui provenait de tout ça. Et ça a été l'enfer. C'était l'enfer parce que... Lui, il sort, on n'a plus rien. L'appartement, on était obligé de le lâcher, nos meubles ont été déménagés, nos chiens, ils ont été emmenés à la fourrière, on les a jamais revus. Et tout le temps où j'étais en détention, on n'avait pas le droit de se contacter. Le procès se déroule au mois de juin 2021, au tribunal judiciaire de Nanterre. Tous les protagonistes sont amenés à comparaître. Et Jojo de la Vega, de ce que j'en apprends dans l'enquête et lors du procès, voilà, c'est que c'est un mec qui a la quarantaine, qui vit dans le sud de la France, qui ne sort pas de chez lui, qui a des gros problèmes de santé et qui est sur le darknet depuis des années. Et c'est son activité. Voilà, il ne fait que ça. La peine qui a été prononcée contre moi est de 7 ans et 2 ans de sursis. Alors je suis resté 18 mois à la maison d'arrêt de Nanterre en détention. Donc on a déduit l'année que j'avais pu faire auparavant, le temps que j'ai fait sous bracelet électronique aussi, et de par mon comportement et mon investissement en détention, j'ai bénéficié de remises de peine supplémentaires, et j'ai l'interdiction définitive d'exercer dans la fonction publique. Donc j'étais radié de la police, et je suis sorti début février 2023 sous bracelet électronique que j'ai porté pendant environ 2 mois et demi, 3 mois. Pendant ma détention, la première année, j'ai fait le nécessaire auprès de la Banque de France pour refaire un dossier de surendettement. Et puis au bout de quelques mois d'instruction, au vu de ma situation, ils ont décidé d'un effacement total des dettes. Donc en fait, depuis 2020, je suis interdit bancaire, mais c'est complètement assaini sur le plan financier. Donc actuellement, je vis en Normandie, donc avec mon conjoint, on a repris une vie normale. Depuis ma sortie détention, les choses sont beaucoup plus apaisées. Après, j'ai repris une activité professionnelle. Je suis en train de monter ma boîte pour créer des sites web pour entreprises et auto-entreprises. Financièrement, ça va parce que mon conjoint a subvenu à nos besoins. Pendant des mois, il a travaillé dans la restauration à faire énormément d'heures supplémentaires. Donc la situation est assainie dans le sens où on n'a plus de dettes, on n'a plus de crédit, on n'a rien du tout. On vit de façon très simple. Là, actuellement, je suis inquiet pour l'avenir puisque il va y avoir un nouveau procès. Je suis renvoyé devant le tribunal de Marseille pour corruption. C'est-à-dire qu'on va me rejuger une nouvelle fois pour avoir vendu des fichiers de la police nationale à un interlocuteur marseillais et qui, lui, les a revendus à d'autres personnes. Et la justice soupçonne à l'heure actuelle que ces fichiers aient pu servir dans le cadre de règlement de compte. Mais quand je vois aujourd'hui les conséquences de cette affaire, non seulement au sein de l'institution, mais aussi sur nos vies, mais je remonterai le temps pour m'en empêcher.
C'était le Ripoux du Darknet, un reportage de Clément Baudet réalisé par Somaya Dabesh. Merci bien sûr à Christophe Boutry, auteur de Une prison française, journal de bord d'un détenu. Merci également à Céline Paris, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et à Rita Ruggirello, notre stagiaire.